Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur plusieurs actualités africaines importantes avec les infos d'Africa Presse du 24 mai. On va parler énergie, politique, justice, un tour d'horizon assez dense.
Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment d'aller voir un peu derrière les gros titres, de comprendre les dynamiques, quoi. Parce que les situations sont très diverses, mais on voit parfois des échos entre elles.
Absolument. On commence au large du Sénégal et de la Mauritanie. Les présidents Faye et Ould Ghazouani, ils étaient ensemble sur la plateforme gazière Grand Tortue Aemim, la GTA.
Ah oui, la fameuse plateforme GTA.
C'est ça. Et annonce importante du président Faye, d'ici 2027, il veut que 20 à 25% du gaz produit aille sur le marché sénégalais. L'objectif, c'est de faire baisser le prix de l'électricité.
C'est logique. C'est la concrétisation d'un projet majeur, attendu. L'exploitation, elle a commencé en janvier 2025. Les premières exportations fin février. Bon, l'objectif, c'est 2,3 millions de tonnes par an.
Et niveau revenu, ça donne quoi pour l'instant?
Pour l'instant, après 5 mois, c'est encore modeste, hein. On parle d'environ 3 millions de dollars US pour chaque pays. Mais bon, le potentiel, il est énorme. Et puis, il y a l'aspect emploi locaux, formation. C'est pas négligeable.
D'accord. Mais est-ce qu'on a parlé de renégocier les contrats avec BP et Kosmos? Parce que c'était un sujet, ça.
Ben justement, pas publiquement lors de cette visite. C'est intéressant. Peut-être qu'ils préfèrent sécuriser la production d'abord, avant d'ouvrir ce dossier, qui est sensible, forcément.
D'accord. Une approche pragmatique peut-être. Restons en Afrique de l'Ouest, mais changeons de sujet, la Guinée. Le calendrier pour les élections de 2025, il semble toujours aussi flou.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier ministre Bahoury, il a évoqué un référendum en septembre, des élections en décembre. Mais la présidence, via le général Camara, a tout de suite calmé le jeu.
Ah bon? Pourquoi?
Ben, la priorité officielle, c'est d'abord faire adopter la nouvelle constitution par référendum. Mais surtout, le gros souci technique, c'est le recensement général de la population. Il a pris un retard fou.
Et sans recensement, pas de fichier électoral fiable.
Exactement. Donc, tenir des élections crédibles d'ici fin 2025, comme c'était promis après le coup d'État de 2021, ça devient très compliqué. Et ça, évidemment, ça fait grincer des dents chez l'opposition, la société civile.
On imagine un blocage technique qui a de lourdes conséquences politiques. Bon, on file au Tchad maintenant. Grosse inauguration à N'Djamena.
Ah oui, le stade Idriss Déby Itno?
C'est ça, le plus grand du pays, 30 000 places, un partenariat avec la Chine.
Tout à fait. C'est un geste symbolique fort, hein. Hommage à l'ancien président décédé en 2021. Et son fils vient d'être élu président. C'est présenté comme un outil pour le sport, pour la jeunesse.
Mais il y a des critiques aussi, j'imagine.
Oui, bien sûr. Certains pointent du doigt un projet un peu grandiose, alors que le contexte économique et social au Tchad reste très difficile. La question des priorités du gouvernement, quoi. Et puis, ça s'inscrit dans cette diplomatie des stades chinoises qui pose parfois question sur les coûts réels, l'endettement.
Oui, c'est une perspective importante. Côte d'Ivoire, maintenant, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la paix a été remis à Antonio Costa, le président du Conseil européen.
Effectivement, remis par Alassane Ouattara à Abidjan. Et le président Ouattara, il en a profité pour lancer un appel au dialogue, à la paix, en vue de la présidentielle de 2025.
Un appel au dialogue.
Oui, et ça résonne d'une manière un peu particulière. Parce qu'en même temps, on a appris récemment que 4 figures de l'opposition ne pourront pas se présenter à cette élection, déclarées inéligibles.
Ah oui, quand même.
Et Monsieur Costa lui-même, en recevant le prix, a rappelé l'importance de respecter les institutions, l'état de droit, ajoutant que l'UE respectait les décisions de justice ivoirienne. Donc on sent bien la tension là, entre le discours et la réalité politique sur le terrain.
Oui, une tension palpable. On change concrètement de décor et de ton, direction la RDC, la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, l'ancien président, est sorti d'un très long silence.
Tout à fait. Juste après la levée de son immunité par le Sénat d'ailleurs, grosse coïncidence ou pas, dans un discours en ligne, il n'y va pas de main morte.
C'est-à-dire ?
Il dénonce des décisions arbitraires, il critique très durement le pouvoir actuel, sans nommer Tshisekedi, mais tout le monde comprend. Il parle d'un État failli.
Carrément.
Oui. Et il annonce vouloir aller à Goma, dans le Nord Kivu. Il propose un pacte citoyen, une sorte de programme politique pour la paix et la réconciliation. Il se pose un peu en sauveur, quoi.
Et sur les raisons de la levée de son immunité, les accusations potentielles, il dit quelque chose?
Justement, pas un mot. Silence radio là-dessus. Ce qui, forcément, alimente toutes les spéculations sur ses véritables intentions politiques. Revenir aux affaires? Désarmer juridiquement ses adversaires? Difficile à dire.
Affaire à suivre de près. On passe au Soudan, et là c'est très grave. Les États-Unis accusent l'armée régulière.
L'armée d'Al-Burhan, oui.
D'avoir utilisé des armes chimiques contre les FSR, les forces de soutien rapide de Emeti. Et Washington annonce des sanctions.
C'est une accusation extrêmement lourde. Le communiqué américain reste un peu vague sur les détails, mais le New York Times avait déjà sorti une enquête en janvier évoquant l'usage possible de chlore gazeux.
Et la réaction de Khartoum ?
Démenti total, catégorique. Il parle de chantage politique. Mais dans le contexte de cette guerre civile effroyable qui dure depuis plus d'un an maintenant, Avril 2023, c'est une information qui fait vraiment craindre le pire, une escalade supplémentaire.
Oui, la situation humanitaire est déjà tellement catastrophique, c'est effrayant. On termine ce tour d'horizon avec une affaire judiciaire qui dépasse les frontières, l'inculpation aux États-Unis d'un Camerounais.
Oui, Eric Tano Tatao. Il vit aux États-Unis et il est accusé d'avoir soutenu matériellement, financièrement, des groupes séparatistes armés dans les régions anglophones du Cameroun, et aussi d'avoir proféré des menaces.
Il était connu ?
Apparemment oui, sous le pseudo Gary Master, assez actif en ligne depuis 2017 pour mobiliser et collecter des fonds depuis l'étranger. Son influence aurait baissé récemment, mais quand même.
Est-ce significatif, cette inculpation ?
Oui, Crisis Group, notamment, estime que c'est une étape importante pour la redevabilité, pour ceux qui alimentent le conflit depuis l'étranger rendent des comptes. Parce que cette crise anglophone depuis 2016, c'est des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Même si, sur le terrain, la dynamique a un peu changé, avec des groupes qui se financent beaucoup par l'extorsion locale maintenant.
Bon, on a fait un large tour. Donc, pour résumer, coopération énergétique prometteuse mais avec des zones d'ombre au Sénégal et en Mauritanie, des transitions politiques qui patinent en Guinée, des symboles forts mais discutés au Tchad, des tensions préélectorales bien présentes en Côte d'Ivoire, le retour sur scène calculé de Kabila en RDC, des accusations terribles au Soudan et la justice internationale qui s'intéresse au conflit camerounais.
C'est ça. Et toutes ces situations, très différentes, elles nous ramènent finalement à des défis qui traversent le continent. Comment construire une gouvernance stable, inclusive ? Comment assurer la justice, le développement pour tous ? Et la question qui reste toujours en suspens, comment ces dynamiques internes, souvent fragiles, interagissent avec les pressions, les intérêts, les interventions venues de l'extérieur. C'est toute la complexité de la situation actuelle. Une réflexion à poursuivre, assurément.